Jacques Villiers, bonjour. Vous êtes sur Esprit Occitanie. C'est l'émission Cinéma Cinéma. Aujourd'hui, le western numéro 2. Nous avons vu il y a quelques jours le western de manière générale, c'est-à-dire cette chanson de geste américaine qui portait surtout sur le 19e siècle. Alors quand on examine les westerns, puisqu'on va parler aujourd'hui des westerns, on a un équilibre à faire entre le moderne et l'ancien. On fait des allers-retours entre le moderne et l'ancien, c'est-à-dire le western classique, disons des années 40-50, et le western plus moderne, que ce soit américain, ou ce qu'on a qualifié de western spaghetti. Alors que retenir comme film symbolique? C'est tout à fait arbitraire. On pourrait retenir tous les Ford, tous les Eastwood, tous les Mann, tous les Leone, tous les Hawks, etc. Alors sélection arbitraire, nous allons commencer par le western Rio Bravo de Howard Hawks, qui est considéré par le meilleur western jamais tourné par Quentin Tarantino et par de nombreuses autres personnes. Donc ce film est réalisé par Howard Hawks. Howard Hawks est un metteur en scène qui a tourné des comédies, des films d'aventure, des westerns. Et chaque fois, ce sont vraiment des chefs-d'œuvre. Il a tourné aussi comme autre western, La Rivière Rouge, La Captive aux yeux clairs, qui pourraient être cités aussi bien ici, par leur qualité et leur originalité. Alors Rio Bravo, de quoi s'agit-il? Il n'y a pas d'Indien, unité de lieu, c'est une ville dans laquelle le shérif a emprisonné une personne pour avoir commis des délits, et cette personne a son frère qui veut la sortir de prison. Donc, on a dans la prison quatre personnes, le shérif, John Wayne, son assistant Dean Martin, qui a été alcoolique et qui essaie d'arrêter, un chanteur à l'époque qui était connu, Ricky Nelson, et surtout Walter Brennan qui fait le vieux Stumpy, qui a obtenu trois fois l'Oscar du second rôle et qui met un humour assez fort dans le film. Donc cette œuvre, on est obligé de parler d'œuvre, a vraiment une dimension universelle. Il y a en permanence des coups de théâtre, il y a une psychologie des personnages qui sont fortement étudiés, donc c'est un film particulièrement intéressant. Alors dans le film, il y a une musique qui est jouée à l'extérieur du bureau du shérif, qui s'appelle le Deguelo. Le Deguelo a été joué à Alamo, il signifiait qu'il n'y avait pas de quartier. Donc cette musique que vous allez entendre maintenant signifie pas de quartier pour le groupe autour du shérif dans la prison.
Thank you.
Après, parmi les westerns de Ford, on pourra en retenir une dizaine. J'en retiens un seul qui est L'homme qui tue à Liberty Valance. C'est dans une ville du Far West. Il y a le méchant absolu qui est joué par Lee Marvin, le bon qui est joué par John Wayne et un avocat qui arrive qui est joué par James Stewart. L'idée, et j'en avais parlé l'autre jour, c'est que le droit va essayer de primer contre la force. Il y a la force brute, donc le plus méchant. Il y a la force qui représente, entre guillemets, le bien, qui s'oppose à l'autre. Et enfin, il y a le droit pur qui arrive avec l'avocat. Donc ce film est particulièrement intéressant par cette confrontation. Il y a des élections pour désigner des représentants de cette collectivité, ce qui est rare. On n'a pas beaucoup d'élections dans l'Ouest. Et surtout, donc, il y a l'avocat qui pense avoir tué le, entre guillemets, méchant Liberty Valance. Et en fait, c'est John Wayne qui l'a tué. Donc, si je reprends ce film, c'est parce que l'opposition classique dans le western qui permet de distinguer celui qui représente la loi et celui qui va l'enfreindre est beaucoup plus subtile que dans de nombreux autres films qui sont caricaturaux. Alors, toujours dans l'arbitraire de ces films, là aussi, un film classique qui s'appelle Le train s'y fera trois fois. Alors, c'est un film qui montrait l'abandon d'un shérif face à des gangsters qui vont arriver. Donc, il essaie de se faire aider par la population, mais tout le monde le rejette. C'est symbolique de ce qui était à l'époque le McCarthyisme. Le réalisateur a voulu montrer comment il y a un rejet de personnes qui devraient être défendues et qui ne le sont pas, qui sont condamnées par la collectivité et qui devront lutter tout seuls. Donc, ce personnage joué par Gary Cooper, qui est un grand acteur de western, et son épouse est jouée par Grace Kelly. Grace Kelly a joué quelques films, notamment quelques westerns, dont celui-là. Toujours dans le cadre arbitraire, je fais un saut dans le temps, on est obligé d'évoquer, bien sûr, Il était une fois dans l'Ouest. Alors là aussi, comme pour Ford ou Hawks, on pourrait citer plusieurs films de Sergio Leone, notamment la trilogie des Dollars. Et ensuite, il y a donc les Il était une fois dans l'Ouest, puis La Révolution. Il était une fois dans l'Ouest est caractéristique par sa construction qui est très originale. Dans un film classique américain, on aurait vu un personnage joué par Bronson, dont le frère a été tué par Henry Fonda, qui arrive dans une ville, qui demande où est Henry Fonda, qui se dispute à plusieurs reprises avec lui, il se tourne autour et à la fin il y a un duel. Or ici, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, plusieurs scènes se succèdent sans qu'on puisse en comprendre la portée et la réalité, et c'est seulement au bout d'une longue partie du film qu'on comprend, et même à la fin, Bronson n'a pas dit à Henry Fonda pourquoi il allait le tuer, et quand il est au sol, il lui met son harmonica entre les dents, et là, Henry Fonda a le souvenir d'avoir pendu le frère de Charles Bronson avec un harmonica dans la bouche et qui tombait ensuite au sol. Donc, le film Il était une fois dans l'Ouest est un western, je dirais mieux que Spaghetti. C'est un western original. Et par la suite, il y aura beaucoup de western Spaghetti qui n'auront pas le même niveau. Pour revenir un petit peu en arrière sur le film classique, on va écouter ici une mélodie qui avait eu un succès énorme à l'époque avec une chanson qui était aussi là-dessus. C'est Le train sifflera trois fois. Thank you. Ensuite, la horde sauvage. On est là dans le moment où le cinéma américain commence à avoir une proximité avec le cinéma italien, le western spaghetti. Donc la horde sauvage, c'est aussi un réalisateur comme Ford, comme Hawks, comme Anthony Mann qui sont spécialisés dans le western. Et il a tourné Pat Garrett et Billy the Kid, il a tourné un certain nombre de films qui ont marqué. La Horde Sauvage, donc, c'est original à cause de la violence. Il y a chez Peckinpah une violence qui apparaît dès ce premier western, comme un coup de feu dans la Sierra ou Major Dundee, mais qui là va atteindre un sommet dans la violence et la représentation de la violence. Il y a au début une attaque de banque classique. Sauf que les gangsters vont sortir et se trouver en but à un tir de personnes qui veulent les éliminer, la police. Et ils se trouvent aussi au milieu d'un défilé contre l'alcool. Et ils vont partir dans la rue et là, quand la fusillade éclate, on a le sang qui va jaillir. Et Peckinpah se caractérise, et s'est toujours caractérisé, par des ralentis. Donc on voit le sang qui jaillit au ralenti. Il y a des scènes donc, d'une violence très forte. Cette scène du début, c'est effectivement une violence très très forte. Et à la fin, il y a aussi un combat pendant plusieurs minutes, c'est-à-dire que ces membres de la Horde Sauvage, qui sont des comédiens célèbres à l'époque, ou des seconds rôles ou des premiers rôles célèbres, vont arriver devant l'armée mexicaine et il va y avoir un combat qui va entraîner la mort de tous les membres de la Horde Sauvage et de nombreux morts du côté mexicain. Donc la Horde Sauvage tournant dans le western à cause de cette violence qui a été à l'époque jugée excessive, mais quand on voit le film aujourd'hui, on peut considérer qu'il est précurseur et qu'il est particulièrement original. Donc, la Horde Sauvage. Alors après, encore une fois, tout cela est arbitraire, mais il y a un film qui est réalisé par Marlon Brando. Ce sera le seul film qu'il réalisera, qui s'appelle « La vengeance aux deux visages ». La vengeance aux deux visages, Brando est aussi le héros du film, et il se présente comme un gangster qui a été abandonné par un de ses copains au cours d'une fuite devant la police, qui sera là en prison, et qui vient retrouver son ancien ami dans la ville dont il est devenu le shérif. Et donc on aura une sorte de relation perverse entre les deux, c'est-à-dire Karl Malden et Marlon Brando, qui est rare dans le western. Une perversité dans le rapport, une séduction, une répulsion. Le shérif se dit, bon, il va me pardonner, mais en réalité, il n'y aura pas de pardon. Donc, la vengeance, toujours la vengeance dans le western. Et là, ce film est particulièrement original dans la manière dont le rapport entre les personnages va se dérouler. Alors après, je prends un western qui a été ici aussi un tournant pour les États-Unis. C'est Little Big Man. Little Big Man est un film dans lequel le héros est un Indien, en réalité un blanc qui a été enlevé lors du meurtre de sa famille et qui est élevé comme un Indien. Et il va passer successivement dans les deux camps, si je puis dire, le côté blanc cavalerie et le côté Indien résistance. Parce que c'est à ce moment-là que le western devient pro-Indien. L'Indien était resté pendant des décennies celui qu'on méprisait, hein, Custer disait un Indien, un bon Indien, c'est un Indien mort, hein, voilà, c'était la logique de l'époque. Et puis, à la fin des années 60, au début des années 70, le western américain se réveille. Et il va même faire des métaphores, le western devient une métaphore du Vietnam. Le Vietnam, c'est la violence contre les populations civiles. Et là, dans l'établissement, on assiste à un massacre qui a réellement eu lieu, la cavalerie qui massacre femmes, enfants, hommes, dans un camp indien. Et là, il y a une caricature absolue, en particulier du général Custer. Le général Custer était célèbre dans les westerns classiques, il a été magnifié, et là, il apparaît comme une espèce de vantard ridicule. Pendant une certaine période, Little Big Man, Dustin Hoffman en pratique, l'acteur Dustin Hoffman, devient guide pour la cavalerie. Et à un moment donné, on sait qu'il y a une chausse-trappe qui est tendue par les Indiens, une embuscade, et le général Custer demande à Dustin Hoffman où est-ce que je dois passer pour éviter l'embuscade. Alors, Dustin Hoffman indique une direction, et Custer commence à réfléchir en disant, bon, tu me dis là, Mais tu sais que tu vas me tromper. Donc, c'est l'autre point que je dois prendre. Mais comme tu sais que tu vas me tromper, et donc ça dure pendant quelques minutes, pour dire, voilà, je vais prendre ce niveau-là, et Custer est effectivement ridicule. Donc, Little Big Man est un western pro-indien, comme il y en a eu d'autres au début des années 70, comme Soldat Bleu, on pourra en citer d'autres, où l'Indien devient valorisé et n'est plus méprisé par le spectateur ou le réalisateur. Donc, Little Big Man, tournant important dans le western. Après, j'ai choisi José Wells sort la loi. José Wells sort la loi, c'est un film de Clint Eastwood avec Clint Eastwood. Clint Eastwood a tourné plusieurs westerns, notamment Pale Rider, Impitoyable, et ces westerns ont toujours une qualité. Là, la particularité, c'est que ça se déroule pendant la guerre de sécession et à la fin de la guerre de sécession. Donc, lieu de western important. Alors, j'ai choisi celui-là. On aurait pu encore en choisir d'autres. Il y a des centaines de westerns sur la guerre de sécession. Là, c'est la fin. Il fait partie des sudistes, José Wells, Clint Eastwood, et tout le monde dans son groupe de combattants va se rendre aux nordistes. Et au moment où ils se rendent aux nordistes, ceux-ci vont canarder tout le monde et tuer tout le monde. Et donc, José Wells s'en va et il devient hors la loi, sa tête est mise à prix. Et il va, au cours de son voyage, rencontrer alors un vieil indien, un chef indien, qui est d'ailleurs le même qui jouait dans Little Big Man. Il va rencontrer un enfant, il va rencontrer une femme. Et il va reconstituer en quelque sorte une famille à partir de ce noyau qui n'est pas exemplaire du mode de vie américain, qui n'est pas exemplaire de la communauté américaine. Donc il crée sa communauté particulière. Et là encore, c'est rare dans le western d'avoir cette situation qui va apparaître. Alors, on revient à des westerns qui sont à la limite du classique et du moderne. Il y a L'homme au col d'or, qui est un film dans lequel le marshal, Henry Fonda, va se heurter à un shérif, Richard Widmark. Et il y a là aussi une ambiguïté. Qui va dominer l'autre ? Est-ce que c'est celui qui représente une forme de loi, mais assez brutale ? Ou celui qui représente la loi de manière beaucoup plus juste et, je dirais, présentable. Donc, L'homme au col d'or, opposition, là encore, entre des différentes forces à travers un certain nombre d'hommes. Donc, L'homme au col d'or. Alors, nous avons, L'homme des vallées perdues. En américain, c'est Shane. Donc, L'homme des vallées perdues, ça a été un film qui a été important à l'époque, un grand succès, et sur lequel beaucoup de personnes ont repris la thématique. Il faut rappeler que Lucky Luke, Morris, c'est une connaissance absolue du western, et c'est une référence absolue à certains westerns importants. Donc là, par exemple, que se passe-t-il au début et à la fin de L'Homme des Vallées Perdues ? Il arrive d'on ne sait où, et ensuite il repart on ne sait où. Donc c'est effectivement le Lonesome Cowboy qui apparaît dans Lucky Luke. Et on a aussi une particularité, c'est que ce personnage central, ce héros qui vient de loin, ce pistolero, on a l'arrivée dans une ferme avec un couple, un enfant, et petit à petit, la femme est fascinée par ce personnage, ce cowboy qui est un pistolero. Et on a une ambiguïté, et d'ailleurs à la fin, le personnage principal s'en va pour éviter qu'il y ait quelques problèmes. Alors, anecdotiquement, il y a aussi, dans le cas de Lucky Luke, le personnage de Fil de Fer, qui est un des Lucky Luke au début de la série, qui est représenté à travers la caricature de Jack Palance. Jack Palance est le méchant dans ce film, et donc la manière dont il est présenté sera caricaturée dans Fil de Fer. Il y a aussi, ce sera le dernier élément sur ce film, la présence d'une scène dans laquelle le héros arrive dans un bar et on commence à l'apostropher. Et il dit « You are talking to me ?» Alors, à quoi ça renvoie ? Ça renvoie au fait que Martin Scorsese, dans Taxi Driver, vous avez la célèbre scène devant le miroir, Robert De Niro disant cette phrase-là « Est-ce que tu me parles à moi ? Est-ce que tu me parles à moi ?» Et donc, comme Martin Scorsese connaît tout le cinéma par cœur, il a effectivement pris cette scène comme référence. Alors voici la musique de L'Homme des Vallées Perdues.
Let him come.
L'homme des vallées perdues, donc western, hyper classique dans la présentation, dans le sujet. Alors, un western américain, mais déjà anticipant sur la violence et la crudité du western italien. C'est Vera Cruz, qui est tourné dans la première moitié des années 50, avec Gary Cooper et Burt Lancaster, héros de western classique, et qui là vont au départ s'opposer, puis s'allier, pour récupérer un chargement d'or qui va vers le Mexique. Donc, les personnages sont peu recommandables. Il y a les seconds couteaux, comme d'habitude, des seconds rôles célèbres, mais je ne vais pas vous les énumérer. Et il y a une trahison, il y a des personnages qui ne sont pas très fréquentables. Dans le western de l'époque, il y a des personnages qui représentent toujours, je dirais, le bien et le mal. C'est manichéen, le western. Donc, on a des héros qui représentent le bien, et là, en fait, les deux héros sont à cheval entre une sympathie et puis une violence, et une volonté de récupérer de l'argent, une rapacerie, on pourrait dire, de ces deux personnages. Donc, original pour l'époque. Alors, par contre, un autre film que je vais citer, je saute dans le temps, et je trouve Danse avec les loups. Danse avec les loups, c'est le film de Kevin Costner, qui est assez long, et qui pour la première fois montre les Indiens dans leur vie réelle, et non pas fantasmée comme l'Indien des années 50-60, qui était souvent d'ailleurs un blanc qui était grimé, hein, comme le blackface, il y avait le Indian face, si on peut dire. Donc Danse avec les loups, c'est un personnage de cavalerie, un lieutenant de cavalerie, qui va être envoyé dans un poste perdu, loin de tout, où il va, entre guillemets, sympathiser avec un loup, et où il va sympathiser avec des Indiens. Et la caricature a totalement disparu. Les Indiens sont des personnages sympathiques qui ont des qualités, même s'il y a aussi parfois des défauts. Mais la sympathie pour les personnages est vraiment permanente, constante. Alors, pour passer à deux ou trois westerns modernes, bien sûr, vous avez Django Unchained, qui est le film de Quentin Tarantino. Ce film de Quentin Tarantino montre un chasseur de primes et il va découvrir un allié. Alors le chasseur de primes, c'est Christoph Waltz, qui jouait dans Inglourious Basterds, qui avait eu un prix d'interprétation pour cela. Et c'est le chasseur de primes qui va recueillir, entre guillemets, un noir qui était enchaîné sur une chaîne en quelque sorte de transport vers un bagne. Et donc, il va s'en faire un allié en disant, voilà, je dois capturer ces frères-là, et toi, tu les connais, donc tu vas me les désigner et je vais les arrêter. Il y a un humour assez fort et il y a même une scène unique, c'est une critique du Ku Klux Klan. C'est-à-dire que les deux personnages, à un moment donné, se trouvent face au Ku Klux Klan et les membres du Ku Klux Klan, à un moment donné, disent « Mais attendez, j'arrive pas à voir, qu'est-ce qui s'est passé avec ces cagoules ?»« Ah ben les yeux, vous avez fait les trous des yeux au mauvais niveau, donc qui c'est qui a fait ces cagoules, qui c'est qui a fait ces trous ?» Ça va pas, on n'y voit rien, etc. Donc c'est une satire. Quand on voit le film qui est extrêmement poussé, le Ku Klux Klan n'a jamais été caricaturé comme cela. Donc c'est une scène comique qui a une portée aussi politique. Donc, Django Unchained. Sur les westerns actuels, on peut citer aussi Hostile. Hostile qui montre un lieutenant de cavalerie qui va accompagner des Indiens. Alors il a combattu fortement les Indiens, et puis là il est fatigué, et comme beaucoup de personnages qu'on trouve dans la réalité, des officiers, des généraux d'une extrême violence quand ils sont en tête d'une armée, au bout de 20 ans, 30 ans de carrière, ils deviennent des défenseurs de la paix, et c'est un peu ce qui se passe ici. Il va accompagner ces Indiens tout en étant proche d'eux, petit à petit, progressivement. Donc ces westerns, On pourrait dire qu'il y en a un tous les 6 mois ou un tous les ans qui apparaît. Vous avez eu Open Range là aussi avec Kevin Costner. Il y a eu The Revenant. The Revenant, c'est avec Leonardo DiCaprio qui a été laissé pour mort après une attaque d'ours. Et ceux qui sont chargés de surveiller ou de l'aider partent et vont l'abandonner. Donc il l'abandonne à son sort et il va se remettre en quelque sorte en forme progressivement et poursuivre le convoi pour arriver à se venger. Donc voilà, on pourrait citer d'autres westerns. Vous avez True Grit qui a été fait par les frères Coen. Vous avez dans les westerns récents aussi Appaloosa. Vous avez donc quelques films qui apparaissent chaque année. Mais il est vrai que le western reste un genre, je dirais presque en disparition. Même si le fait qu'il y en ait un tous les 6 mois ou tous les ans, c'est obligatoirement un signe de qualité. Parce que s'il a été fait à un moment donné, c'est parce qu'on a trouvé un scénario, on a un réalisateur qui est important et le film va bien marcher. C'était Cinéma Cinéma. Vous pouvez écouter le podcast de cette émission ainsi que de toutes les autres sur Esprit Occitanie, sur le podcast Esprit Occitanie.